Cantique des Cantiques, au chapitre 1er, verset 1er. Cantique des Cantiques, verset 1er. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 1er. Ben, je commence à bouillir, ça y est. Voilà donc, nous lisons Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton nom plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Amen. J'aimerais parler ce soir de, tout simplement de nous en tant que chrétiens, enfants de Dieu, mais dans notre relation avec notre bien-aimé. Amen. Et le livre des Cantiques relate justement cette histoire d'amour magnifique entre cette jeune femme, la Sulamite, et son bien-aimé. Ton bien-aimé, c'est le berger. Alors, ce livre fait l'éloge des sentiments purs, vrai, profond, fidèle, solide, entre l'homme et une femme. Et par extension, eh bien, il s'agit également de la relation de l'Église avec Jésus, l'époux bien-aimé. Amen. Le Cantique des Cantiques mentionne quatre niveaux de relation. La Sulamite en parle. Et on va ce soir voir un petit peu cela, l'étudier, et on va se rendre compte qu'il y a comme une progression de la force, mais également de la qualité de la relation qu'il va y avoir entre la Sulamite et son bien-aimé, mais qu'il doit y avoir ici également entre l'enfant de Dieu et son bien-aimé. Le premier niveau de relation, il est là, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 13. Nous ne l'avons pas lu, mais vous allez le lire maintenant. Il est dit « Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. » Mon bien-aimé est pour moi. Voici ce qu'elle dit. Elle s'exclame, elle dit, mon bien-aimé est pour moi. La Sulamite considère le plaisir et les avantages que lui procure son fiancé, son bien-aimé. Formidable qu'il soit là. Formidable de l'avoir à ses côtés. Formidable de pouvoir sentir sa présence. Puis également, il est rassurant. Et puis, il m'apporte tellement. Alors, le fiancé, c'est l'image du Seigneur. C'est lui qui bénit, bien sûr. C'est lui qui accorde de larges faveurs à son peuple, à ses enfants. Il est un donateur généreux. Et cet aspect met l'accent sur, bien sûr, les nombreux bienfaits que nous pouvons recevoir, que nous pouvons nous attendre à recevoir et obtenir tout simplement de la part du Seigneur. Et cette attente, bien sûr, elle est normale. Justement, quand on découvre la foi, de plus, l'homme est convié, je dirais, à recevoir les multiples grâces, tout simplement les manifestations de bonté, eh bien, qui sont déployées dans la personne de Jésus. Formidable quand on découvre l'Évangile. Et moi, je me rappelle, j'étais comme un maître du sol, on me le disait, on redescend un peu, tout nouveau converti, je découvrais la foi, je demandais, le Seigneur me répondait tout de suite. Et on me dit, c'est... Mais écoute, redescends un peu, on va crever la bulle comme ça, tu sortiras un petit peu de ta bulle. Et c'est vrai, mais c'est formidable. Et on n'hésite pas à demander, on n'est pas gêné, on n'est pas embarrassé, c'est pas vrai? On est comme un enfant, on découvre et on prend plaisir à cela. Alors la Bible affirme ceci, Colossiens chapitre 2, verset 10, la dernière partie. Nous avons tout pleinement en Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, tu as tout pleinement en Jésus. Mon ami, si simplement, eh bien, tu veux le croire, ces choses que nous avons reçues, tu peux les recevoir aussi. Ces promesses qu'il y a dans la parole de Dieu, elles sont aussi pour toi. Il faut que tu le croies simplement. Alors, ça nous parle bien sûr de l'assurance d'être aimé et accueilli. Formidable. Savoir que Jésus nous accueille au lieu de nous tenir rigueur. Qui n'a jamais levé le poing contre lui? Levez la main. Bon, ben on est tous pareils. Un jour, on l'a tous critiqué, on a levé le poing contre lui, on l'a accusé injustement. Eh oui, mais lui nous a accueillis. Ça nous parle encore de la guérison divine, la guérison physique, la guérison du cœur et de l'âme. formidable. C'est tout ce qui se trouve dans la présence de Jésus, du bien-aimé. La certitude également de devenir une nouvelle personne. La délivrance des œuvres des ténèbres. Eh oui, il délivre. La consolation, le soulagement de tous nos maux, du secours également dans les situations même les plus dramatiques. Le Seigneur est assez puissant pour nous en délivrer. Quel privilège et quelle grâce! Quand on découvre Jésus, bien sûr, il est normal de demander eh bien, toutes ces bénédictions que Dieu veut accorder parce qu'il prend plaisir à bénir. Amen. Dans Matthieu 7, verset 7, Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. L'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous ?» Il précise, hein, il donne des précisions. Il ne donne pas n'importe quoi, le Seigneur. Alors, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Hein, s'il demande du pain. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Bien sûr que non. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demande. On est venu pour demander ce soir, hein, c'est la réunion de prière. Et on va demander avec foi, avec enthousiasme, et sans redouter la réponse, parce qu'elle va être bonne, la réponse. C'est la réponse de Dieu. Alors bien sûr, on ne doit pas passer toute sa vie à être un quémandeur, ou si vous préférez, un mendiant spirituel. Hein? Un défaut chez les personnes mises en contact avec l'Évangile, au commencement bien sûr, consiste à rechercher Jésus principalement et prioritairement eh bien, pour être béni, secouru, hein, aidé. Vous allez me dire, c'est normal, il faut le faire. Oui, mais il n'y a que ça dans l'esprit, au début, quand on ne le connaît pas encore assez bien, comme un ami formidable, comme un être aimant parce qu'il nous aime. Amen. Alors, la relation avec le Seigneur dans la prière est uniquement basée sur l'attente des bénédictions. Et c'était, je dirais, la motivation des foules quand elles accouraient pour voir Jésus. En tout cas, le Seigneur est considéré comme le bien-aimé parce qu'il soulage. Alléluia. Parce qu'il console. Amen. Formidable. Parce qu'il secourt, parce qu'il guérit, parce qu'il donne un travail, parce qu'il pourvoit aux besoins matériels, parce qu'il il communique un certain bien-être. C'est formidable. Qu'est-ce que sa présence est extraordinaire. Alors, on va passer au deuxième niveau de relation. Cette fois-ci, c'est au Cantique, chapitre 2, verset 16. Voilà, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Et ici, on note une progression par rapport au niveau précédent. Cette évolution est appelée à être vécue, bien sûr, par tous et par toutes. Alors, la notion d'appartenance réciproque, elle est là. La sulamite affirme que son amoureux lui appartient et qu'en retour, elle se voue à lui. Vous voyez, hein, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Alors, au niveau spirituel, il s'agit d'une personne qui va un petit peu plus loin que la recherche de la simple bénédiction divine. Elle ne s'approche pas de Jésus uniquement afin qu'il soit, je dirais, pour elle. Maintenant, elle vient à lui pour le recevoir comme le sauveur de sa vie. Amen. Elle devient enfant de Dieu par la foi parce qu'elle ouvre son cœur à la lumière divine. Elle la laisse pénétrer. Et voilà, maintenant, elle est habitée par cette lumière, par cette vie divine, cette vie qui vient d'en haut. Jean dira ceci, Jean chapitre 1, verset 12, nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, la parole faite chair, à ceux qui croient en son nom, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. C'est un début formidable de s'ouvrir, de laisser pénétrer la vie, cette vie nouvelle, et d'être, je dirais, animé, justement, à partir de là, par cette vie. Alors, bien sûr, le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs parce qu'il désire sauver le plus grand nombre. Amen. Nous en faisons partie, mais il y a quelques années, nous faisons partie des perdus. Et gloire à Dieu qui nous ait ouvert la porte de son cœur, qui nous ait, quelque part, allez, ouvert l'intelligence pour que nous comprenions. Les sympathisants de l'Évangile, les personnes qui sont bénies, sont appelées justement à entrer dans le salut en confiant leur vie tout simplement au Fils de Dieu. Le pardon des péchés, nous savons, est accordé en réponse à la repentance. Je me suis vu pécheur, j'ai pleuré sur mon péché. Amen. Nous sommes tous passés par là. Et Pierre nous dit, Actes chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous donc, convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Amen. Alors la vie éternelle, bien sûr, elle est offerte. C'est gratuit. Je dis gratos dans votre propre. C'est gratuit. Le Seigneur nous l'accorde gratuitement. Justement, quand la foi est manifestée. Et ensuite, il y a l'obéissance. Et le baptême traduit la réalité spirituelle selon laquelle, justement, le nouveau croyant racheté de ses fautes s'engage à suivre le bon berger. Amen. Eh oui. Jésus avait dit aux disciples, dans Marc chapitre 16, verset 15, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et au verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Magnifique. Quel privilège que d'avoir saisi et compris cela. Je crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus, c'est mon Sauveur. Amen. Je crois que c'est lui que Dieu a envoyé pour me sauver. Et je veux le suivre. Amen. Parce qu'à partir de là, eh bien, le croyant, il n'a plus rien à craindre quant à la mort. Parce que la Bible donne des garanties concernant la fin des temps et l'au-delà. Eh oui. Jean chapitre 14, verset 1er, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Certains ont dit qu'ils ne savaient pas encore, mais le Seigneur après les a éclairés. En tout cas, le Seigneur commence une œuvre de changement et de transformation dans le cœur du croyant. Extraordinaire. On arrive à vaincre notre nature pécheresse. On arrive à se séparer de nos vices, de nos passions, pour fixer les regards ailleurs, dans la bonne direction. Amen. Alors progressivement, vous voyez, il se passe des choses. En nous convertissant, on n'est pas parfait d'entrée. Mais il se passe des choses. Progressivement, on est libéré du joug, de son passé. On voit la vie de Dieu se déployer au travers du Saint-Esprit. Le Seigneur opère des choses en nous. Il intègre également certaines notions. Il est appelé justement à appartenir à son maître. Je dois dépendre de lui. C'est pour ça qu'il le dit. Je suis à lui. Au verset Cantique 2, verset 16. Je suis à lui. Cependant, pour l'instant, cette mention ne vient pas en premier. Vous voyez ? L'aspect dominant, c'est le suivant. Mon bien-aimé est à moi. C'est-à-dire que Jésus, c'est mon sauveur. Il me fait passer de la mort à la vie. Il inscrit mon nom dans le livre de vie qui est dans les cieux. On en est là pour le moment. Et on va aller donc au niveau 3 de la relation. Et là, le dit donc, c'est Cantique chapitre 6, verset 3. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Et là, il y a une progression dans l'ordre des choses. La notion première mentionnée est maintenant celle de l'appartenance du chrétien à Dieu. J'appartiens à mon bien-aimé. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fils du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Donc, on prend de la hauteur. Par rapport justement au niveau où le Seigneur est recherché également pour ses bienfaits, ses bénédictions. On va au-delà, bien sûr. On est monté également par rapport au niveau où Jésus a été invité à pardonner nos péchés, vous voyez, à nous accorder la vie éternelle. On va plus loin. Et là, à ce stade, eh bien, Jésus n'est pas seulement le Sauveur, mais il est aussi le Seigneur. Amen. Il est le Seigneur, c'est-à-dire celui que le chrétien a donné justement la possibilité de régner. Je suis à mon bien-aimé, je lui appartiens. Amen. Je suis à mon bien-aimé. Ça vient en premier. Alors dans cette sphère, le croyant a choisi d'appartenir entièrement à son Seigneur. à lui offrir son existence, hein, il est devenu, allez, je vais prendre ce terme, il est devenu comme un disciple consacré. Il y a une consécration, et on va le voir. Et nous sommes là en présence de chrétiens qui acceptent, bien voilà, de renoncer à sa propre vie pour la confier au Seigneur Jésus. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. C'est le terrain également de l'acceptation des efforts, des sacrifices, du prix à payer, de la perte également de certains avantages, comme le confort ou la facilité, afin de donner la priorité tout simplement au Seigneur et à son œuvre. Je veux servir le Seigneur. Je veux lui être utile. Je veux que ma vie le serve justement au projet de Dieu. Donc, ce n'est plus moi qui vais diriger ma vie. Mais c'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, ces réflexions sont très pratiques et également sont vécues. Quand, par exemple, un disciple décide de supporter des contraintes d'un service dans l'Église, et quand également il plonge ses regards dans les Écritures, alors que la motivation n'est pas toujours présente. Et des fois, c'est difficile, on est fatigué, on a eu une journée difficile, hein, on a connu des contrariétés, enfin, on est crevé. Mais le Seigneur me demande de lire sa parole. Mais je vais le faire. Quand également on s'adonne à la prière alors qu'on préférerait une autre activité, quand on manifeste également de la fidélité au programme de l'Église, malgré les soucis, malgré la fatigue, malgré la lassitude, parfois l'absence d'envie des fois. Oui, mais on dit non, Seigneur, il doit passer en premier. L'Église doit passer en premier. Je me souviens quand je me retrouvais, donc à l'époque j'étais encore pompier professionnel à Carpentras et que j'allais à l'église le vendredi soir à la réunion de prière. Oh pétard! Et des fois j'étais en train de conduire et d'aller à l'église et je disais, Seigneur, tu es un sacré combattard là. J'étais mort de chez mort puisque je construisais ma maison en même temps. Mais j'ai dit, j'y vais, non, il faut y aller. Mais je revenais, la fatigue avait disparu. Pendant la réunion, bon, les forces ont été renouvelées, oh, le moral, tout ce que vous voulez. Je revenais en pleine forme. Mais c'est ça, le Seigneur. Quand on donne, en échange, il nous donne ou il nous rend en l'ayant béni, multiplié, en l'ayant fait grandir. Amen. On peut souligner également d'autres attitudes prouvant justement que l'enfant de Dieu permet à Jésus de diriger sa vie. Elle la recherche de la sanctification. Ça montre justement que, on veut justement permettre au Seigneur de faire sa vie en nous, de la développer, également d'une vie qui plaît à Dieu. Je veux plaire au Seigneur, je veux que ma vie, elle plaise au Seigneur. Alors, c'est en renonçant au péché, à toute forme de dépendance également, mais aussi le renoncement à certaines choses, au conflit dans les relations humaines. Eh oui, comme la domination sur les autres. Moi, je suis plus grand. Je suis plus intelligent. Je suis plus beau. Vous voyez un petit peu. Et oui, donc on peut quelque part dominer. La critique systématique, le mépris, le renoncement à l'amour de l'argent, le renoncement aux sollicitudes de la chair. Et oui, ce qui nous pourrait nous paraître normal. Et bien ça devient normal quand justement on cherche la sanctification, quand on cherche à plaire au Seigneur. Et les priorités sont quelque peu bousculées, inversées. Vous voyez un petit peu. En tout cas, dans chaque situation, je vais choisir de me détourner de la voie qui ne correspond pas à la sagesse divine. Je vais décider d'emprunter le chemin qui va être agréable au Seigneur. C'est celui-là qui plaît. Il me coûte. Oui, il le sait qu'il s'en nous coûte. Il le sait. Mais il plaît, il préfère qu'on lui dise, Seigneur, écoute, de toute façon, on ne sera jamais perdant. Je vous fais une confidence. Je ne vais pas être trop long quand même. Quand je me suis converti, avant de me convertir, j'étais un fanat de sport automobile. Rallye, les circuits, les motos, les voitures. Je me suis retrouvé avec Agostini, ça vous dit ? Vous avez entendu parler de lui, Barry Sheen et tous les grands, Ken Reed, etc. Voilà. Je me suis retrouvé avec eux, avec les usines Yamaha, les usines MV Agusta et tout ça. Et j'avais un collègue qui courait. Et donc, j'étais avec lui. Et quand je me suis converti, le jour de mon baptême, parce que j'ai dit au Seigneur, il faut que je me fasse baptiser, je veux obéir maintenant. Donc, mon pasteur m'a préparé, puis après, c'était le jour du baptême. Ce fameux dimanche matin, Donc le dimanche après-midi, c'était le baptême. Et dimanche matin, c'était le culte où on allait me présenter pour le baptême. Alors, ce dimanche matin-là, il y avait une course de côte juste en face chez moi. C'était l'appel. C'était l'appel. Yeah, Seigneur. Vous voyez, je n'avais même plus les dates, tout ça. J'étais complètement déconnecté de tout ça, quoi, hein, parce que mes yeux étaient fixés ailleurs maintenant. Mais j'ai dit non, Seigneur. On arrive à Carpentras, et à Carpentras, qu'est-ce qu'il y avait? Un super cross. Là aussi, j'ai des collègues qui couraient. Ah, dimanche après-midi, il y avait, vous savez, à l'époque, Prost et Senna. Il y avait, justement, on approchait de la fin, c'était au mois de septembre, donc il y avait la grosse rivalité, je ne sais plus quel Grand Prix, donc entre en Formule 1, quoi, voilà. Et je dis, non, Seigneur, je vais à ma place cet après-midi, elle est à l'église. En plus, je plonge, hein, voilà. Et voilà, mais j'ai dit, Seigneur, non. Et puis, vous allez voir, comme quoi le Seigneur, il est formidable. La semaine qui a suivi mon baptême, je me retrouve à faire la sécurité sur un rallye. Alors que ce n'était pas moi au départ, mais le gars qui devait donc amener l'engin sur place et pour faire l'assistance, il n'était pas là. Donc on m'a appris, on m'a dit, Bernard, toi tu y vas, tu connais bien le... Oui, je connais bien, oui, je sais. Et je me suis retrouvé donc aux premières loges. Voilà. Et puis des trucs comme ça, vous voyez. On n'est jamais perdant, et le Seigneur. Quand on décide de le faire passer en premier, même ce qui nous plaît, que nous aimons, eh bien, il permettra que nous puissions le vivre parce qu'il sait que ce n'est plus le même intéressement. Il sait que ce n'est plus pareil. Vous voyez ? Donc, quelque part, formidable. J'étais aux premières loges. Voilà. En tout cas, dans chaque situation, nous devons choisir. En tant qu'enfant de Dieu, je dois choisir. Ça ne plaît pas à Dieu, je dois me détourner de cette voie. Ça ne correspond pas à la sagesse de Dieu, ça ne correspond pas à la volonté de Dieu, donc je vais m'éloigner de cela, me détourner pour me tourner vers ce qui va être agréable au Seigneur. Et pour vivre cette dimension, eh bien, l'enfant de Dieu a besoin de mourir à lui-même afin de permettre justement au Saint-Esprit de développer en nous, de porter du fruit. Et il s'agit de refuser finalement ce que la vieille nature va nous dicter. Qu'elle va dire, oui, il faut que tu le fasses. Et je vais dire, non. Je me positionne. Et ça ne plaît pas au Seigneur, je dis non. Amen. C'est ainsi que Pierre, l'apôtre, a appris à abandonner son esprit de supériorité et son orgueil. Amen. Également que Jacques et Jean ont dû gérer leur impétuosité. Ils ont dû apprendre justement la modération. Ben oui. Ils ont aussi renoncé à leur esprit de compétition déplacée. Seigneur, à ta droite, à ta gauche. C'est la maman qui les avait introduits de cette manière-là. Eh oui. Paul, lui, il a dû canaliser son zèle, hein, sa fougue. Eh oui. Pour devenir un instrument utilisable entre les mains de Dieu. Amen. Timothée, quant à lui, a été encouragé. Alors, a quitté quoi? Eh bien, sa timidité qui était excessive, car c'était un obstacle au développement de son ministère, du service pour Dieu. Il a fallu qu'il vainque sa timidité. Et le Seigneur l'a aidé. Vous voyez, avec cette mentalité, eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons qu'un souhait. C'est de nous séparer de tout ce qui n'est pas conforme à la sainteté, à la volonté et à la gloire de Dieu dans notre vie. Tout pour que je plaise au Seigneur. Rien qui ne fasse obstacle tout simplement à la joie de mon Seigneur. Je veux le réjouir. Alors on va chercher à s'identifier, à identifier ce qui déplaît au Seigneur, hein, afin de s'en séparer, parce qu'il faut couper. Hein. On va se laisser éclairer pendant notre marche, on va accepter de traiter courageusement certaines zones d'ombre. Je dis comme ça, mais on sait où il y a une zone d'ombre. Hein. On va reconnaître bien qui on est, on va se dépouiller progressivement des éléments de notre vie charnelle. Vous voyez ? Parce qu'il ne faut plus satisfaire ce qui, quelque part, plaît à la chair. Non. Hein ? Le but de ces opérations, bien sûr, ce n'est pas une vie austère, fade, monotone, sans saveur. Mais c'est une existence que le Seigneur peut librement remplir de ses pensées, de ses sentiments qui vont nous animer, de ses qualités à lui, de sa présence. Qui n'a pas envie d'avoir la présence du Seigneur? Pas simplement lorsque ça chauffe, mais également quand tout va bien, pour nous permettre de découvrir certaines choses. Amen. Alors, il est remarquable de constater que mon bien-aimé est à moi figure après. Et selon cet ordre, la priorité pour le disciple, non, c'est d'appartenir à Jésus et d'être à lui. Je lui appartiens. Je suis à lui. Et voilà que la bénédiction, la faveur de Dieu, sont considérées non seulement, je dirais, en deuxième position, eh oui, nous sommes là en présence d'un enfant de Dieu qui s'attache davantage au Seigneur qu'à ses bienfaits, qu'à sa bénédiction. Je suis attaché à lui. Je l'aime. Il me donne que le Seigneur soit béni. Il ne me donne pas que le Seigneur soit béni. Et il sait pourquoi. Mieux que nous. Hein? En tout cas, le donateur devient plus important que le don. Vous comprenez? La personne divine est plus importante que ses faveurs. L'œuvre de Dieu, la croissance de l'Église, le développement du royaume de Dieu sont plus importants que les grâces. S'il me donne, merci Seigneur, s'il ne me donne pas, tant pis. C'est qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Eh oui, eh oui. Donc c'est un niveau où on aime Jésus pour ce qu'il est plus que pour ce qu'il fait. Il est fils de Dieu. C'est le bien-aimé. Amen. C'est finalement un amour désintéressé qui s'offre sans attendre un retour. Vous comprenez? Eh oui. On passe au quatrième niveau. C'est le ciel. Non, c'est bien, vous allez voir. Cantique 7, verset 11. Il est là. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Alors, pour ce quatrième et dernier point, on franchit encore une étape. Seule la mention « Je suis à mon bien-aimé » apparaît. Donc, il semble que l'essentiel soit d'appartenir totalement au Fils de Dieu, qu'il y ait bénédiction ou pas, réponse favorable aux prières ou pas. La relation avec le Seigneur ne dépend plus de ce qu'il accorde. Si le Seigneur ne me donne pas, je lui tourne le dos. Non, non, ça s'est mis de côté, c'est fini. S'il ne me donne pas, c'est qu'il sait pourquoi. Et comme je le disais, il a certainement quelque chose de meilleur en vue. Ou alors, ce n'est pas le temps de Dieu. Des fois, il faut que Dieu soit à notre temps à nous. Eh bien non, c'est au temps de Dieu. Vous comprenez? Hein? La relation avec le Seigneur ne dépend pas de ce qu'il va m'accorder ou pas. C'est la qualité d'un amour supérieur que Jésus lui-même a manifesté vis-à-vis de son Père. Lui-même a montré le chemin. Eh oui. C'est le style d'amour que le Créateur déploie en faveur de l'humanité, cette humanité indigne. C'est le style de vie d'un disciple qui est animé des mêmes sentiments que Jésus au point de dire « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Amen. Pas la mienne, Seigneur. Des fois, on a tendance à le dire. Hein? Et puis, au bout d'un moment, il faut réaliser, dire hop, 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 hop. Non, non, je vais trop loin. Non, ta volonté, Seigneur. Amen. Le disciple donne à partir de là la possibilité à Jésus de disposer de sa vie. Est-ce qu'il peut disposer de ta vie, mon frère, ma sœur? Il le faut. Hein? C'est une offrande sans retenue. Ce que je suis est à toi. On le chante quelquefois. Hein? Amen. Le Seigneur peut alors réaliser son plan sans obstacle, comme une lettre à la poste. Tout se fait. C'est l'identification parfaite au Fils de Dieu qui pousse de mes sœurs au sacrifice. Donc c'est un niveau d'amour qui est prêt à tout pour rester fidèle au Créateur. Je dois lui plaire. J'ai envie de lui plaire. Oh, je veux grandir, Seigneur. Je veux qu'un amour soit encore plus grand. Je t'aime déjà, mais je veux encore plus. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Alléluia. Est-ce que vous voulez, quelque part, monter à un niveau supérieur? Amen. Il y a des choses encore à faire. Gloire à Dieu. On va prier ensemble, vous voulez bien? Emmanuel m'a envoyé les sujets de prière. Hop. Je vais vous les nommer. On priera également, hein, pour la suite de ce